Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
De la côte ouest du pays à Victoria, en Colombie-Britannique, où nous sommes diffusés.
Oui.
Jusqu'à l'autre bout du pays.
Oui.
Le plus loin, c'est où? C'est Chéticamp, Nouvelle-Écosse.
Oui.
Ouais. Alors, considérez-vous comme
mais
étant...
Mais t'as oublié un océan, là.
Ah oui, d'un océan. C'est vrai, il y a l'océan...
Il y a le troisième.
Le troisième aussi, Iqaluit.
Ben oui, voilà.
Au Nunavut.
Oui. Bonjour
c'est
à tous.
C'est l'endroit le plus au nord où on nous écoute.
Exactement.
Parce qu'il faut savoir que cette émission-ci, à laquelle on vous souhaite la bienvenue, évidemment, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris.
Bienvenue.
Elle est diffusée d'un océan à l'autre
et à l'autre. L'autre. Oui, ouais, les trois. On touche les trois. Le mot du jour, mon cher Simon.
Oui. OK, vas-y.
T'as une minute.
Attends, tu ne l'as pas trouvé encore?
Mirage.
Ah, c'est facile, ça.
Oui, je voulais t'en faire un cadeau.
Non, ce n'est pas un mirage de nous retrouver dans votre radio, dans votre station préférée cette semaine, avec une autre édition, évidemment, de Peut contenir des infos.
Oui.
On est là, en chair et en os. Quoique vous ne nous voyez pas, on est quand même là par la faculté de la parole et vous nous entendez.
Et l'imagination.
Alors, ce n'est pas un rêve, imaginez. Non, ce n'est pas un mirage.
Non.
On est bien là.
Bravo, mon cher.
Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ça va bien.
Aujourd'hui, à l'émission...
Oui.
On reçoit Céline Bossé.
OK.
Elle est diététiste, nutritionniste en santé publique à Calgary.
OK.
Elle va venir nous parler de végétarisme et véganisme.
Oh, OK. Ça va être intéressant, ça.
Oui, ça va faire vraiment différent. Également, on va se parler de... Eh bien, en fait, c'est tu vas nous parler de fake news.
Oui, les fausses nouvelles.
Les fausses nouvelles qu'on retrouve sur le web.
La mécanique d'une fausse nouvelle.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle est fausse ou pas?
Et comment savoir que c'en est une?
Et comment les déceler?
Oui.
Évidemment.
Alors, ça va être un beau petit sujet qu'on va avoir pour vous un peu plus tard dans l'émission. Et bien sûr qu'on aura notre quiz.
Le quiz.
Absolument.
Ça bourdonne et pas qu'à peu près.
Tu sais que l'essence...
Oui.
Tu sais quand tu vas faire le plein, ça coûte cher. Un petit peu moins dernièrement, là, mais ça coûte encore pas mal cher.
Ben, c'est en denti, hein?
Oui, c'est vraiment en denti.
Tu vas une journée, tu vas faire le plein, tu dis « Ah! »
Ah, c'est pas pire.
Ah, c'est pas trop pire.
Mais tu sais, on dit « c'est pas trop pire ».
Ben... Pendant la pandémie,
c'est encore cher.
Ah, moi, je me souviens que pendant la pandémie, on a mis de l'essence à un moment donné. Ben, écoute, il n'y a plus personne ou à toute fin utile qui circulait sur les routes. Fait que les pétrolières.
Tout a tombé, là.
On payait l'essence à moins d'une pièce, là, du côté de l'Ontario, puis du Québec et dans les provinces de l'Atlantique.
Oui, effectivement. Et là, c'est rendu un petit peu plus cher que ça.
Un petit peu.
Alors, moi, je vais te parler aujourd'hui des voitures qui consomme le moins.
Ah, ben c'est intéressant, ça.
Hein?
Ça, c'est intéressant.
Tu sais, si vous pensez rester dans le thermique encore un petit bout, là, puis vous voulez vous acheter une nouvelle voiture, ben je vais vous donner les voitures qui consomment le moins d'essence.
OK.
OK? La première, c'est la Volkswagen Jetta.
Oui, elle est assez frugale, elle.
Oui, elle consomme 6,8 litres au 100 km. C'est quand même pas si mal. La Nissan Versa, 6,7 litres. Au 100 km. Et là, t'as vu que c'est deux berlines.
Oui. Mais on s'entend que ça, c'est sur l'autoroute, là. Je veux dire, c'est.
On s'entend que c'est. On s'entend que c'est combiné.
C'est ça. OK.
Ça, c'est combiné.
OK.
La Mitsubishi Mirage. 6,2 litres au 100 km.
Très bon.
Tu sais, comme ça prend pas beaucoup d'essence comparé à.
Comparativement un Sorento, par exemple.
À mon camion, mettons.
Ouais, et puis à ton camion, ouais, c'est ça.
La Toyota Crown hybride, 5,7 litres au 100 km.
Ah ben là, t'es dans l'hybride aussi, là, mais il y a quand même une motorisation à explosion là-dedans, là, moteur thermique aussi.
Parce que vous allez voir que, bon, les prochaines voitures, c'est des hybrides.
OK, c'est ça.
Oui, c'est ça. Parce que ceux qui consomment le moins, bien entendu, c'est pas juste un moteur thermique, il est aidé aussi par un moteur électrique. La Honda Accord hybride, j'ai été surpris, je pensais que c'était un petit peu plus que ça, c'est 5,3 litres au 100 km. C'est quand même pas si mal, là.
Mais c'est un peu aussi ce que Marc Bouchard, notre chroniqueur automobile, était venu nous dire à un moment donné ou l'autre, là,
oui,
dans une de ses chroniques. Ben, à défaut de vous tourner vers le 100% électrique pour c'est des raisons, pour des motivations qui sont tout à fait les vôtres, par exemple, parce que vous voulez faire de longues distances et tout ça, ben, à défaut d'aller vers le 100% électrique.
Vous pouvez aller vers l'hybride.
L'hybride est tout à fait correct.
Et il y a des hybrides branchables.
En plus.
Qui vous donnent une autonomie, mettons, entre 50 et 75 kilomètres. Tout à fait électrique.
Pour la ville, par exemple.
C'est ça. Fait que, tu sais, si vous voyagez, disons, vous avez 15 ou 20 kilomètres à faire par jour pour aller au bureau, ben, si vous avez une hybride branchable, ça vous coûte pas d'essence, nécessairement.
Ah, c'est pas pire, ça.
Ouais. Et si vous avez des longs trajets à faire, ben, vous avez le thermique. Donc, la Hyundai Sonata hybride, elle consomme 5 litres au 100 kilomètres. Là, on commence à tomber dans sous la barre des 5 litres. Toyota Camry hybride, 4,9 litres au 100 km. La Hyundai Elantra hybride, 4,7 litres au 100 km. Quand même pas pire. Là.
Ben.
T'sais? Toyota Corolla hybride, 4,7 litres au 100 km.
OK.
OK. Et la grande championne,
vas-y.
C'est laquelle,
hein? Non, je ne sais pas, mais ça doit être asiatique, je présume.
Oui, absolument. C'est la Toyota Prius.
Ah, ben oui.
Prime. Qui, elle, consomme 4,5 litres au 100 km et a une autonomie, parce qu'elle est branchable, une autonomie de 72 km.
Ce qui est tout à fait correct.
Qui est tout à fait correct et c'est drôlement plaisant.
Ben oui.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a aucun vu là-dedans.
Il n'y a pas de VUS, moi, c'est
non.
Ça.
Il n'y a pas de VUS, des vues.
Toi, tu appelles ça des vues?
Ben, appelle ça des vues.
En anglais, c'est SUV, là,
oui.
Sport Utility Vehicle.
Oui, c'est ça.
Véhicule utilitaire sport en français, j'appelle ça des VUS, OK.
Des VUS.
La même affaire.
Ben, c'est pas mal, oui, la même affaire, mon cher Simon.
Je vais vous parler du CRTC.
Le CRTC.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Oui.
Avec un nom long de même, on comprend pourquoi, oui. Tu sais, il y a un acronyme.
on comprend pourquoi que c'est CRTC.
On connaît mieux sous le nom de CRTC.
Oui.
Ils viennent d'infliger une sanction à la suite d'une enquête approfondie sur de l'hameçonnage.
Oh! Ça, j'aime ça.
Ouais, on se demande souvent, coudon, il y a des lois contre le spam, me semble, hein? contre le polupostage ou encore les appels téléphoniques inopportuns, là.
Oui.
Les textos aussi pour de la sollicitation. Puis là, on se demande, on dit, ben, c'est quoi ces lois-là? Est-ce que ça débouche sur quelque chose? Est-ce que ça donne
un peu de mordant, cette affaire-là? Là?
Ben, le Conseil de la radiodiffusion et télécommunications canadiennes, le CRTC, et je ne le répéterai plus maintenant, a publié récemment les détails d'une enquête sur une campagne d'hameçonnage à grand volume qui a mené à l'imposition d'une sanction, quand même pas si pire comme amende, 40 000 piastres.
Oh, OK.
40 000 piastres. À Sami Medouni, c'est un résident du Québec, pour son rôle dans cette campagne de hameçonnage ou de spam qu'il a fait avec des textos. C'est une enquête qui a été lancée après qu'une compagnie de téléphone, téléphonie sans fil évidemment, là, a averti le CRTC qu'il y avait une arnaque potentielle qui touchait les clients de cette compagnie-là.
Okay.
On dit là, notre monde, là, il commence à recevoir des SMS, puis...
Ils sont pas contents.
Ils sont pas contents.
Ouais.
Et l'enquête a finalement démontré qu'entre le 22 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, le type en question, M. Medouni, a obtenu des numéros de téléphone de manière frauduleuse. Six numéros dont il se servait pour envoyer 32 000 textos d'hameçonnage à des Canadiens. Alors, les messages d'hameçonnage ont été envoyé, on le devine, sans consentement.
Ben oui.
Bien sûr. Et, comme on le disait tantôt, pire encore, avec des numéros de téléphone qui avaient été obtenus de manière frauduleuse.
C'est vrai.
Tu pensais que c'était legit.
Ben oui.
Pas l'expression, mais ben oui. Ce ne l'était pas. Les messages imitaient des entreprises connues pour obtenir des données personnelles, des numéros de carte de crédit, par exemple, des identifiants bancaires et d'autres renseignements sensibles. Et le gars, ben, il a mangé une tape ses doigts.
Oui.
40 000 piastres de sanctions administratives. On n'appelle pas vraiment ça une amende, mais c'est une amende à toute fin utile. Là, faut comprendre que le CRTC, c'est un tribunal administratif.
Absolument,
hein?
Oui.
Alors voilà.
Oui, c'est pas juste un organisme du gouvernement.
Mais non, c'est pas juste un donneur de licence.
Non,
là.
Non.
C'est, là, le CRTC, c'est pas mal plus que ça. Le CRTC qui a mis en application ce qu'on appelle la loi canadienne anti-pourriel, où il y a une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire, la liste des numéros téléphoniques exclus.
Oui,
là,
c'est ça.
La LNNTE, liste des numéros, comment on dit ça, de télécommunications qui sont exclus. Vous, vous mettez votre numéro de téléphone là-dessus.
Ah oui, vous inscrivez à la liste.
Et vous dites, à toute fin utile, moi, je veux pas recevoir de communication à ce numéro de téléphone-là.
C'est ça.
Et avant de vous envoyer des textos ou encore avant de vous appeler, les entreprises sont, évidemment, quand c'est légal...
les entreprises legit.
Légal, oui. Le vendeur de fenêtres, par exemple, ou la compagnie de sollicitation pour je sais pas trop quelle compagnie, eux autres, sont obligés de vérifier voir si votre numéro figure ou pas là-dessus avant de vous joindre. On s'entend que le gars, lui, il a passé par là.
Non, lui, il voulait
il a passé
pas
par-dessus la loi.
Oui.
Et en collaboration, justement, avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Bureau de la concurrence, on a mené cette enquête-là. On a collaboré aussi avec le Centre national de coordination en cybercriminalité de la Gendarmerie royale du Canada, donc la GRC, pour finalement aboutir à ce résultat. Le gars, 40 000 piastres d'amende pour 32 000 textos envoyés chez les gens. Évidemment pas sollicité. Alors, si vous vous demandez, y a-t-il des lois qui nous protègent?
Oui, il y en a.
Ben manifestement, oui. Et est-ce que ça donne quelque chose? Ben ça a l'air que oui.
Dernièrement, je sais pas pourquoi, là, mais il y en a un qui est vraiment tannant, là, parce que je reçois toujours des textos qui dit que mon colis, j'ai pas été chercher mon colis, on n'a pas pu livrer votre colis de Poste Canada. Et là, tu regardes l'adresse de site internet qui t'envoie, tu sais, pour aller vérifier ton affaire, c'est tiny URL, tu sais, des affaires de même. Fait que tu sais tout de suite que c'est pas legit, là. Mais c'est tannant, là, parce que, tu sais, c'est aux deux jours, là, ils t'envoient, là, c'est comme, je sais bien que tu peux, maintenant, avec les applications de messagerie, tu peux les filtrer, alors tu l'envoies tout de suite dans le spam puis c'est fini, là, mais c'est quand même...
Ça reste un peu tannant.
Ben oui, c'est un petit peu tannant, là, puis ceux qui t'appellent, là, les robots qui t'appellent, ça aussi, c'est super.
Bon, on s'en passe pas. Dans un tout petit instant, au retour de la pause, une invitée qui va nous parler de végétarisme et de véganisme. C'est-tu la même affaire? Hein? C'est ce qu'on va savoir avec elle dans un instant. Restez proches.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
François, t'es un mangeur de viande, toi?
Effectivement, oui. Et je dois te dire que j'en mange plus l'été, en raison du barbecue, le beau temps, je sais pas, c'est... Pour moi, ça va un petit peu ensemble.
Ça va avec la saison.
Ça va avec la. Oui, ça va avec la saison.
Un gros rib steak.
L'hiver, j'en mange beaucoup moins.
C'est ça.
Ben, un gros. Mais les portions ont diminué avec l'âge. mais aussi, je m'aperçois, plus je vieillis, moins je mange de viande.
OK. Un peu plus de poulet, par exemple, de viande blanche.
C'est ça. Oh, et puis du poisson, des choses comme ça.
Mais savez qu'au Canada, pour différentes raisons, il y a plusieurs Canadiens qui ont un régime alimentaire végétarien. Ça peut être pour des raisons morales, par exemple. Mm-hmm. Les gens ont décidé de préserver l'environnement, par exemple. Alors, ils éliminent les viandes de leur assiette. Il y en a d'autres qui sont végétariens pour des considérations religieuses. Hein. On sait que les gens dans l'hindouisme, entre autres, il y en a plusieurs, une grande majorité d'entre eux qui, justement, sont végétariens. Il y en a d'autres que c'est pour des raisons médicales et on voulait avoir aujourd'hui le fin mot parce qu'on sait que le végétarisme et le véganisme également, c'est deux choses différentes. Ça gagne en popularité. On voit passer ça dans les médias sociaux un petit peu partout.
Oui.
Et on a dit, on va aller questionner quelqu'un qui s'y connaît, qui est spécialiste dans l'alimentation, la nutrition. Et c'est pour ça qu'on fait appel aujourd'hui à une dame qui s'appelle Céline Bossé. Elle est diététiste et nutritionniste et elle est à Calgary, en Alberta. Et on a la chance de parler avec elle du végétarisme. Bonjour, Madame Bossé.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Oui, ça bonjour. Va bien, vous-même?
Très bien, merci.
Madame Bossé, il me semble que le végétarisme et le véganisme également, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler autour de nous autres. On lit beaucoup là-dessus sur Internet. On voit des vedettes, par exemple, qui adhèrent justement à ce principe de vie-là. D'abord, Madame Bossé, première question, c'est quoi le végétarisme?
Le végétarisme, ceux qui choisissent ce mode d'alimentation vont faire des choix qui sont plus au niveau végétal, donc ils vont vraiment choisir les produits des jardins, tout ça, ils vont diminuer complètement mais la viande, et puis ils vont garder les produits laitiers, les œufs, tout ça, contrairement au véganisme, ceux qui choisissent complètement de bannir en totalité les produits dérivés des animaux et de la chair de l'animal tel quel. Donc, on pense vraiment, là, véganisme, c'est pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers, puis toutes les viandes et les volailles en question. Donc, ils vont être uniquement à base de produits végétaux.
Donc, si on boit du lait, consomme des œufs, on peut quand même se considérer comme végétarien.
Oui, oui, absolument. Le végétarien, il y a différentes sortes de végétariens aussi. Ça dépend dans quel... Tu sais, dans le fond, c'est des choix personnels. C'est des choix qui peuvent se faire à des étapes différentes. Tu sais, on peut commencer par juste couper la viande rouge. À un moment donné, on dit, bon, ben tiens, on va pousser la chose, on va enlever toutes les volailles, on va garder les poissons. Il semblerait que c'est plus santé. Il y en a d'autres qui vont dire, non, poisson, moi, c'est pour mes valeurs environnementales, on va sauver la planète, il faut faire attention, les surpêches, les surélevages, moi, je suis contre ça, donc je veux vraiment faire un pouce sur l'environnement, donc je coupe tous les produits venant des animaux.
Ça veut dire que, tu sais, des fois, on a l'impression, quand on entend parler, quand on lit à propos du végétarisme ou même du véganisme, là, ou le végétalien, là, comme on dit, c'est pas une profession de foi là qu'on est en train de faire. Là, je veux dire, on tourne pas nécessairement complètement le dos à toutes les tous les toute la viande et tout ce qui a rapport au règne animal. Là.
Pour le végétarisme, non. Mais pour le véganisme, oui. C'est plus intense.
Est-ce que ça va...
des degrés d'intensité.
Est-ce que ça va aussi loin que, par exemple, dire je ne vais pas porter de vêtements de cuir ou je vais pas avoir de choses du genre quand on est végane, là, ça peut aller aussi loin que ça, là?
Oui, c'est ça. C'est toujours une question de choix de personnel en fonction de ses valeurs. Hein?
OK.
Et quand tu veux être conforme à tes propres valeurs, ben tu te sens mieux dans un régime alimentaire qui maintient ces valeurs-là en place. Et selon l'intensité de leurs convictions, ils peuvent aller jusqu'à ne pas acheter ou porter des vêtements qui ont été fabriqués à partir de peaux d'animaux, de cuir, des choses comme ça. Oui, absolument.
Quels sont les bénéfices qu'on associe généralement au végétarisme?
Ben, en fait de science sur la santé du corps humain, il est certain que quand on fait toute exagération dans la consommation, l'idée c'est d'être varié dans ses choix alimentaires. On sait très bien qu'avec le portefeuille des gens, tout augmente au niveau de l'alimentation. C'est peut-être une bien belle occasion là de profiter de ce tournant et de choisir et de faire des recettes moitié viande, moitié légumineuse. Moi, j'ai commencé comme ça, avec ma sauce à spaghetti, j'ai réduit de moitié mon bœuf haché et j'ai mis des lentilles brunes dans la sauce. Personne n'en a vu la différence. Alors, c'est tranquillement comme ça qu'on arrive à jouer sur, bon, ben, aider à notre portefeuille, mais aussi aller en fonction. Ben, je suis contente, je fais un pas vers améliorer l'impact sur la planète et tout ça. Puis ça, c'est démontré, là. Tu sais, on sait très bien que de l'élevage intensif et tout ça, c'est dur sur la planète. Donc, alors, c'est ça. Les gens vont faire leur choix en fonction, comme je vous dis, de leurs valeurs personnelles, puis de leur culture, puis de leur religion, oui. Mais pour la santé, c'est aussi démontré que de diminuer les produits de la viande, c'est vraiment favorable pour la santé. C'est certain que la fibre du produit végétal va donner beaucoup plus d'aide à ton microbiote, si tu veux. Tout ton intestin, le travail dans l'intestin, ça va améliorer de beaucoup. On se sent moins fatigué, c'est moins lourd à la digestion. Il y a plein d'avantages comme ça, mais je pense que les personnes qui font ces choix-là doivent écouter leur corps davantage puis aller en fonction du mieux-être. Quand ils consomment un produit de viande, comme c'est plus lourd à la digestion, donc ils peuvent peut-être faire des petites recherches là-dessus, dire oui, ça a un impact. Et oui. D'aller vers des choses plus végétales.
Oui, oui. Puis quand vous parlez de l'impact sur la santé à travers la consommation, on peut pas nier non plus que le fait d'adhérer, par exemple, au végétarisme, ça a des répercussions qui, même si elles ne se traduisent pas, les impacts sont pas mesurables directement sur notre personne, nous-mêmes, sur le moment présent. Le fait, par exemple, qu'on réduise notre consommation de viande, qu'on fasse moins de pression, par exemple, sur l'élevage de masse, comme on voit, par exemple, la déforestation en Amérique du Sud, par exemple, là, on voit des hectares et des hectares de forêts dévastées pour élever du bœuf. Par conséquent, ça devrait avoir des résultats qui sont bénéfiques aussi pour l'entièreté de la population, je veux dire, à quelque part, non?
Absolument, absolument. C'est que chacun additionné 1 plus 1 plus 1 plus 1, on vient qu'on aide vraiment la planète en son entièreté.
Absolument. C'est ça.
Donc, c'est leur façon, c'est dans le fond, c'est la façon en tant qu'individu d'aider la planète.
Oui, c'est une conscience pour soi et pour le reste de nos congénères. On a parlé des bénéfices tout à l'heure, Madame Bossé. C'est quoi les risques, les contre-indications d'aller dans ce mode de vie-là? C'est quoi les dangers qui peuvent guetter quelqu'un qui dirait, moi, je m'en vais là-dedans, là, corps et âme, puis je me garoche là-dedans, là? Des carences, par exemple? À quoi on peut penser?
Bien, c'est sûr que quand on pense à seulement d'aller vers une diète entièrement végétale, la viande fournit la B12, qui est principalement le fer, vraiment un fer facilement utilisable par le corps, alors que quand on va vers les végétaux, la B12 est plus difficile à retrouver, est en plus petite quantité, on va l'avoir dans la levure alimentaire, par exemple, on va en retrouver une belle quantité, mais c'est pas tout le monde qui va s'habituer là, tout de suite aller vers. Donc moi, si j'avais une façon de guider les gens, diminuer tranquillement, puis intéressez-vous par des recherches Internet sur qu'est-ce que les points qui vous concernent et d'y aller doucement. Quand il y a des extrêmes, on va plus vers le végétarisme ou le véganisme, pardon, vraiment sévère, ben il faut être avisé qu'il y a des risques justement sur la B12 puis sur le fer dans notre organisme. Alors, je vous dirais, allez-y par étapes tranquillement et en fonction de vos lectures et de vos recherches qui va vous convenir, mais aussi qui va vous faire sentir mieux dans votre corps.
Et c'est aussi une bonne idée de peut-être consulter une diététiste, nutritionniste?
Bien, tout à fait, tout à fait. Il y a des gens, parce qu'on sait très bien que la santé publique, comme moi je sais, c'est de la promotion des bonnes habitudes pour arriver à avoir une meilleure santé. Une diététiste clinicienne ou qui rencontre les gens parce qu'ils ont une diète à modifier par rapport à un état de santé X, Y, Z, au niveau du cœur, au niveau du diabète. Alors là, ça, c'est un autre type de diététiste. Alors, il s'agit de voir à nos besoins et si le médecin nous demande de voir et faire attention à notre hypertension ou à notre taux de sucre, tout ça, c'est là qu'on s'adresse à une diététiste qui est plus clinicienne, qui est habituée dans le domaine clinique.
Ben, c'est très intéressant, Madame Bossé, pour des gens comme nous autres, oui, qui sommes des mangeurs de viande. Je veux dire, j'en mange pas à outrance, mm-hmm, là. Je veux dire, mais de comprendre un peu mieux. Puis, en même temps, pour nos auditeurs, de pouvoir, eux autres aussi, peut-être, à un moment donné, penser à, ah, je vous avais donné une bonne idée tout à l'heure, là, avec votre recette de sauce à spaghetti. Coupe dans le bœuf haché. Oui. Mets des lentilles ou je sais pas trop, mm-hmm, quelle légumineuse là-dedans pour donner, mm-hmm, une autre protéine ou quelque chose dans le genre. Puis, peut-être que t'es en train, tranquillement, pas trop vite, de t'initier. C'est ça. Sans trop le savoir, à quelque chose qui pourrait être plus intéressant et bénéfique pour ta santé.
Oui, absolument. Et moi, j'aime bien aussi m'intéresser aux cultures différentes, alimentaires, tu sais, je veux dire, les cultures alimentaires différentes. On pense souvent à la culture indienne. Il y a beaucoup, beaucoup de mets avec les pois chiches, avec les lentilles, les haricots rouges, même aussi les repas sénégalais. On va avoir beaucoup de légumineuses à l'intérieur. Alors, c'est intéressant de s'ouvrir à différentes façons, puis d'essayer des recettes, puis d'adopter en fonction des goûts de la famille, puis tu sais, c'est comme ça qu'on y arrive. Puis moi, j'ai aussi essayé le pâté chinois, le fameux pâté chinois.
Oui.
Ben encore là, coupé justement au lieu de mettre de la viande ou couper de moitié la viande et d'ajouter du tofu.
Ah oui, pas? C'est vrai.
Des petits morceaux de tofu, tu sais, puis on fait aussi des mélanges de, tu sais, les fameux sandwichs aux œufs qu'on connaît, là,
oui,
avec des œufs écrasés puis la mayonnaise. Ben moi, je prends le tofu blanc puis ferme, puis je l'écrase de la même façon. Je mets la mayonnaise, tous les assaisonnants. Écoute, personne n'y voit une différence.
Ah oh, ben oui, c'est bon.
Alors c'est comme ça. Tu sais, il y a plein d'idées sur. Moi, j'aime beaucoup consulter le Guide alimentaire canadien. Et dans le nouveau format, il y a beaucoup de conseils donnés. Il y a aussi beaucoup de sortes de recettes de différentes cultures alimentaires. Il s'agit d'aller fouiller un peu. Et si on commence une place, ça serait bien dans le site du Guide alimentaire canadien.
Merci beaucoup, Madame Céline. Merci. Bossé. Elle est diététiste nutritionniste. Elle est à Calgary, en Alberta, et on parlait avec elle de végétarisme. Si jamais ça vous tente de vous initier à ça, ben vous aurez eu des bons conseils. Merci beaucoup, Madame Bossé.
Merci.
Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous.
Merci.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Simon, il y a la Fondation pour le journalisme canadien, la FJC, qui a publié des nouvelles données d'enquête qui indiquent que, tiens-toi bien, près de la moitié, 48 % des Canadiens n'ont pas confiance en leur capacité à faire la distinction entre les fausses nouvelles générées par l'IA, l'intelligence artificielle,
okay,
et le contenu produit par des humains.
Un Canadien presque sur deux
est pas capable.
C'est inquiétant un petit peu, pas mal.
C'est un petit peu inquiétant, oui. L'enquête a révélé qu'une majorité, 58 % des personnes interrogées, ont été confrontées à des informations trompeuses ou fausses en ligne, surtout sur les réseaux sociaux, au cours des 6 derniers mois, et pensent qu'elles ont été générées par l'IA. D'une manière intergénérationnelle, ça, c'est pas nécessairement surprenant. 71 % des membres de la génération Z.
Ça, ce sont les plus jeunes, là?
Ceux âgés de 18 à 26 ans.
OK.
Étaient les plus susceptibles de déclarer avoir découvert du contenu généré par l'intelligence artificielle.
Ils sont peut-être plus allumés là-dessus, je présume.
Un petit peu plus, okay, oui. Ben, ils suivent peut-être un petit peu plus ça aussi.
Les technologies, hein? Ouais.
Parmi ceux qui n'ont pas confiance dans leur capacité à faire la distinction entre l'IA et le contenu généré par l'humain, 54 % étaient des baby boomers, les 59 ans et plus, 52 % de la génération X, les 43-58, 41 % des millénials, 27 à 42 ans, et 37 % de la génération Z, les 18-26 ans. Beaucoup plus de femmes, 54 % que d'hommes, 42 % ont admis leur vulnérabilité.
Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus honnêtes que les hommes?
C'est ça, c'est pas nécessairement très surprenant comme résultat. Les personnes les plus confiantes dans leur capacité à déterminer la différence entre l'IA et la génération de contenu humain, 63%, appartient à la génération Z, âgée de 18 à 26 ans, bien entendu, et était plus susceptible d'être des hommes, 58% contre 46% pour les femmes, vivant dans le Canada Atlantique, au Québec et en Ontario.
OK.
C'est dans l'Est. 71% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont exprimé l'opinion que les gouvernements ne seront pas en mesure de réglementer les entreprises qui génèrent du contenu d'intelligence artificielle destiné à être utilisé en ligne ou sur les réseaux sociaux. L'enquête est quand même importante, là. Elle portait sur une sélection aléatoire de 1525 adultes canadiens.
OK. Donc, l'échantillon est quand même pas pire.
C'est quand même pas pire, là. Je sais que toi, tu as écrit plusieurs textes sur le site web de l'Alliance des radios communautaires du Canada à ce sujet.
Oui, absolument.
Simon, comment est-ce qu'on peut détecter ça, une fausse nouvelle?
Ben, la première des choses, faut connaître un peu la mécanique des fausses nouvelles. Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Oui. T'sais, pour éviter justement d'en disséminer, il faut encore comprendre comment ça fonctionne ou qu'est-ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Je veux d'abord étayer un peu mon argumentaire avec 7 points qui vont vous faire comprendre un peu ce qu'est une fausse nouvelle. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une nouvelle qu'on n'aime pas, c'est pas forcément une fausse nouvelle.
Effectivement.
Tu sais, on s'est tous dit à un moment donné, quelqu'un nous arrive et dit « Hey, la maison chez vous est passée au feu. » Ça fait pas plaisir à entendre.
Mm-hmm.
Mais si le gars, il a des photos, une vidéo, puis tu vois les gyrophares et tout ça.
C'est une vraie nouvelle.
C'est comme de la nouvelle. Là.
Oui.
Tu sais, on peut pas passer à côté de ça. Alors, premièrement, une nouvelle qu'on n'aime pas n'est pas forcément fausse. Et vous me verrez peut-être revenir avec mon deuxième point, c'est que, à l'inverse, c'est pas parce qu'une information nous plaît
que c'est vrai.
Que c'est nécessairement vrai.
Effectivement.
Hein? Oui. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui voudraient croire que la Ligue nationale de hockey va réinstaller un club dans la vieille capitale à Québec, par exemple.
Oui.
Mais tant et aussi longtemps que
le petit bonhomme va être là, ça arrive pas.
Que ça n'aura pas été annoncé puis que les papiers n'auront pas été signés, ben, tu sais, vous aurez beau écrire ça tant que vous voudrez sur Internet, mais ça reste de la fausse nouvelle.
Bon, oui, c'est ça.
Pis on a beau rêver que ça arrive, mais c'est pas parce que ça nous plairait que c'est nécessairement vrai.
Ouais.
Troisièmement, il faut discerner l'opinion et l'information. Ce sont deux choses qui sont tout à fait distinctes.
Oui.
Vous aurez beau lire beaucoup de textes d'opinion, par exemple, dans le Journal de Montréal, pour ne nommer que celui-là.
Oui.
Ça ne veut pas dire pour autant que c'est de la nouvelle.
Effectivement, c'est l'opinion d'une personne.
C'est l'opinion d'une personne. Donc, un éditorialiste ou un columniste, comme on dit aussi le terme anglais, un chroniqueur, a beau émettre bien des opinions, et ça vient de lui.
C'est ça.
Comprenez ce que je veux dire? S'il étale des faits,
Ça, c'est une autre affaire.
Oui. Mais tant et aussi longtemps qu'il dira que moi, je suis sûr que, puis j'ai entendu que, puis ben ça reste une opinion. Ça reste une opinion. Quatrièmement, la viralité n'est pas un gage de réalité. Si vous allez sur Internet et que vous cherchez tel sujet et que vous voyez tel résultat, ça veut pas dire que parce qu'on en parle à 1000 places que c'est nécessairement vrai. Ça peut être autant de sources qui vous bullshit, là.
Oui.
Excusez-moi l'expression, là.
Mais c'est ça que c'est.
Encore faut-il que, d'une part, la source ait du bon sens.
Oui.
Et que, d'autre part, la nouvelle soit également véridique. Alors, retenez ça, là. C'est pas parce que plusieurs personnes en parlent que c'est nécessairement vrai.
On va revenir sur les sources un petit peu plus tard.
Oui, absolument. Cinquièmement, le temps n'arrange pas la réalité. C'est pas parce qu'une nouvelle circule depuis 20 ans qu'elle est nécessairement plus vraie.
Ah ouais, c'est ça.
Oui, il parlait de ça dans les années 80.
Ben oui. Mais c'était pas vrai dans ce temps-là.
C'est pas parce que c'était vrai. C'est pas parce qu'on en parle encore aujourd'hui en 2023 que c'est nécessairement plus vrai. T'sais, si c'était une fausseté en 1980 ou 1984.
Ça l'est encore.
Encore une fausseté en 2023. Oui. Ça n'a pas été évidemment vérifié depuis.
Ben oui.
Ça, c'est la cinquième chose. Sixièmement, la popularité, ça n'achète pas la crédibilité. C'est pas parce que vous êtes le président des États-Unis d'Amérique et que vous racontez des mensonges gros comme le bras, que ce sont nécessairement des réalités.
Effectivement.
J'aurais beau marteler tant et aussi longtemps que vous voudrez que les élections ont été arrangées. Si la démonstration est faite que les élections n'ont pas été arrangées, ben, c'est ça.
Comme on dit, case closed.
Exactement. Et c'est peut-être un peu la raison pour laquelle tu pourrais te retrouver éventuellement devant les tribunaux, par exemple.
Oui.
Je donne un exemple.
Ben oui, ce n'est juste qu'un exemple.
Personne. Et, septièmement, la mécanique de la fausse nouvelle, c'est que Internet, et ça c'est très important, Internet n'a pas créé les fausses nouvelles. On a souvent l'impression que Internet a été la source de tous les malheurs qui existent actuellement sur la planète et que parce que l'Internet a été inventé, soudainement, les fausses nouvelles sont apparues. Mais c'est pas ça.
Souvenez-vous du commérage dans le voisinage.
Exactement, sur les perrons d'église à l'époque. Les fausses nouvelles, c'est quelque chose qui existe depuis la pratiquement nuit des temps. On faisait ça dans le temps de la Rome antique, par exemple, pour destituer un empereur. On racontait on allait avec des raconteurs sur son compte. On allait même jusqu'à le faire assassiner, des trucs comme ça. Alors, les fausses nouvelles, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps et c'est pas venu forcément avec la naissance de l'Internet. Mais maintenant, la question, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a 5 questions qu'on peut se poser avant de partager des nouvelles et de colporter de la fausse information.
Et ça, c'est ça. Et c'est là que c'est important.
Là, il faut que vous écoutiez comme du monde, parce que avant
de partager des nouvelles sur les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, nommez-les, il y a 5 questions que vous pouvez vous poser pour éviter justement de partager des fausses nouvelles. Premièrement, première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai écouté ou visionné complètement la nouvelle avant de la partager?
Combien de fois? Oui. Oui. C'est pas juste le grand titre, là.
Alors, lisez, écoutez et visionnez au complet un reportage, une information avant de commencer à relayer ça dans les médias sociaux, s'il vous plaît.
N'oubliez jamais que le grand titre, c'est pour vous accrocher. Hein.
Exactement.
Oui.
Deuxièmement, l'autre question. C'est les informations, est-ce qu'elles me sont apparues comme réalistes ou plutôt invraisemblables?
Ouais.
OK. Troisièmement, et là tu l'as dit tantôt, est-ce que c'est une source qui est fiable et authentique ou ça a l'air d'un site parodique ou viral?
Et ça, faut faire bien attention parce qu'il y en a tellement.
Il y a des sites comme par exemple The Onion en anglais. En français, il y avait le Journal de Montréal à un moment donné qui colportait justement des fausses informations. Donc, vérifier si la source est véridique ou pas. Si je vérifie en ligne, quatrièmement, ça c'est la quatrième question à vous poser, si je vais faire un petit tour sur Internet, est-ce qu'il y a d'autres sources à la fois fiables et reconnues qui traitent du même sujet? S'il y a juste une source ou deux...
Posez-vous la question.
Posez-vous la question.
Oui.
Et cinquièmement, pour la conclusion, est-ce que la nouvelle est encore pertinente et d'actualité? Peut-être que la nouvelle était vraie en 2016, mais est-ce qu'elle l'est encore en 2023? Et on s'en parlait tout à l'heure avant d'entrer en onde. Il y a des gens, des fois, on voit surgir sur Internet, à un moment donné, particulièrement sur Facebook, des gens qui veulent très bien faire et qui partagent une nouvelle sur, on va dire, la disparition, par exemple, de petits enfants, parce que ça les a émus, parce que ça les a touchés. C'est-tu bien effrayant, le petit gars, la petite fille de 7-8 ans qui est disparue. Puis, tout à coup, en lisant la nouvelle, en allant cliquer sur le lien, tu t'aperçois que, c'est parce que il est disparu en 2016, on est rendu en 2023, et il a été soit retrouvé en vie ou encore malheureusement décédé, mais depuis le temps, la nouvelle, elle n'a plus lieu de circuler. Donc ça, c'est la cinquième question à vous poser. C'est encore d'actualité, ce que je partage, ou si c'est un fait qui a été vérifié en 2016?
Puis faites attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent journalistes, qui volent l'information des médias traditionnels et déforment la nouvelle. Ça, là, faites bien attention, parce qu'il y en a de plus en plus de ces personnes-là qui vont se dire journalistes, mais ils ne le sont pas. Si vous voulez la nouvelle, puis la vérifier comme il faut, allez sur un site de médias traditionnels, le site de la radio, le site du journal, puis
allez vérifier, contre-vérifier cette information-là.
Des médias qui sont accrédités, d'une part,
oui,
des médias qui ont une certaine aura de respectabilité ou de réputation qui leur flotte au-dessus de la tête et qui sont assujettis à des codes de déontologie, une radio qui a une licence du CRTC où les gens peuvent se plaindre s'il y a quelque chose. Tandis que le site de Titlin Pimpin, là, qui écrit dans son sous-sol chez lui, il a à toute fin utile personne à qui rendre des comptes.
Il est redevable à personne.
Alors, voilà. On va marquer un temps d'arrêt.
Oui.
Et on va revenir dans un instant avec notre dernière portion de l'émission, la quatrième.
Oui, le quiz.
Ah, le fameux quiz. Alors, restez branchés.
Peut contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
C'est notre dernier quart d'heure et j'espère que vous êtes, comme l'ami François, prêt à répondre aux questions.
Tellement prêt, là.
C'est un quiz.
Pas mentalement, là, mais je suis prêt, là.
OK. Il n'y a pas de thème, c'est un quiz de connaissances générales.
OK.
Et j'y vais un peu comme tu le faisais ou que tu l'as fait à quelques reprises depuis le début de la saison, des vrais ou faux.
Oh, OK.
Pas de choix de réponse, vrai
oui,
ou faux.
Ça, je les aime bien.
Alors, première question, les tomates sont des fruits. Vrai ou faux?
C'est vrai.
C'est vrai?
Oui.
Un fruit, c'est le résultat végétal qu'on obtient d'une fleur qui renferme les graines de la plante.
Mm-hmm.
Alors, de la même façon que la pomme ou la fraise, par exemple.
Ça commence par une fleur.
C'est ça. Mm-hmm. La tomate entre dans la catégorie des fruits puisque les graines sont présentes à l'intérieur de la tomate.
Oui.
Quand tu ouvres la tomate, ben, t'as comme pas mal les graines, sont pas mal d'eau.
Ben,
c'est ça.
Oui.
Deuxième question, le chocolat est toxique pour les chiens. Vrai ou faux?
C'est vrai.
C'est vrai. La toxicité dépend toutefois du type de chocolat, de la taille de l'animal et la quantité ingérée.
Mm-hmm.
Okay? Si vous avez un gros Doberman, par exemple, qui mange un petit carré tout petit, ça risque d'être moins dommageable que si vous avez un poodle qui mange une barre de chocolat.
Au complet,
C'est ça. Parce que le chocolat renferme de la théobromine,
okay.
Une espèce de composé chimique là,
oui.
Que l'humain peut facilement métaboliser, mais pas les chiens. Et on dit que la théobromine, ça, c'est un peu comme un diurétique à toute fin utile.
OK. Mais on devrait, en principe, là, on devrait juste pas en donner à nos animaux.
Donnez pas de chocolat à vos chiens. Pas à vos chats non plus. De toute façon, les animaux, c'est pas fait pour eux.
Ben non.
Les humains peuvent respirer et avaler en même temps, vrai ou faux?
Attends une minute, là. Non.
C'est faux. Elles sont quand même faciles. L'humain a cette particularité. Et puis, le but du quiz, là,
Essayez-les, là, juste pour la fois, parce que c'est ça que j'ai fait.
Pas possible. Et puis, en même temps, il faut que les gens comprennent que le quiz, il est là pour qu'on apprenne aussi un peu. Tu sais, il y a de l'info, c'est pour ça. Fait que les questions n'ont pas forcément toujours besoin d'être hyper compliquées. Donc, l'humain a cette particularité qui l'empêche de respirer et d'avaler en même temps parce que c'est la position basse du larynx dans la gorge et la présence d'un petit organe qui s'appelle l'épiglotte, qui est une espèce de cartilage qui recouvre l'entrée de la trachée quand on avale. Et c'est précisément ça qui fait que quand on boit ou encore qu'on mange, que ça va pas aller dans les poumons.
Ah! Oh. OK.
C'est ça qui bouche, c'est ça qui ferme.
Oui, oui, OK.
Tu sais, des fois, quand tu t'étouffes, tu fais comme...
Ben oui.
C'est parce que ça a pris le mauvais trou.
Ben oui, c'est ça, on dit que ça a passé le mauvais trou.
Ça a passé par le mauvais trou. Ben c'est parce que ça a avalé un petit peu de gorgée de salive, changeant, qui a passé dans le mauvais trou. Mais sinon, là, on a le, c'est ça qui fait qu'on va s'étouffer si on respire et qu'on avale en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle ça, tu peux pas faire ça. Respirer, puis non. Tu seras pas capable, tu vas t'étouffer.
Ah non, j'ai essayé, puis ça marche pas.
C'est ça. La vache laitière a 6 estomacs. Vrai ou faux?
C'est-tu 6 ou c'est 7? Je dirais faux parce qu'il me semble que c'est 7.
Non.
Non?
Ben, c'est faux, mais une vache a plusieurs estomacs, mais c'est pas 6, c'est 4.
Ah, c'est 4.
4 estomacs. Elle a la panse,
7.
Le bonnet, le feuillet et la caillette. Et parce que ce sont des ruminants, c'est ça qui fait, je vous expliquerai pas toute la façon, là.
Non, surtout si il y a des gens à table.
Je sais pas dans quel contexte ou à quel lieu vous êtes en train de nous écouter, mais mettons que vous êtes à table. Ben,
au cas des fois, là.
Alors, c'est pour ça. On vous épargne les détails, mais ils ont 4 estomacs.
Okay.
Le chat retombe systématiquement sur ses pattes. Vrai ou faux?
J'oserais dire vrai parce qu'il me semble toutes les choc que j'ai eu quand il tombait en bas du comptoir et tombait sur les pattes.
C'est faux.
C'est faux? OK.
Le chat possède effectivement cette faculté de se retourner.
Oui.
On appelle ça le réflexe de redressement du chat.
OK.
Et c'est vrai que tous les chats ont ça, là.
Mm-hmm.
Fait que s'il tombe, en principe, il va tomber sur ses pattes. Mais ça arrive de temps en temps qu'un chat soit pas capable de se retourner assez rapidement et ou encore qu'il évalue mal sa manœuvre puis qu'il va tomber croche ou il va tomber sur le dos et tout ça.
Okay.
Mais règle générale, effectivement, les chats vont retomber, mais ça arrive de temps en temps. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on dit que les chutes les plus dangereuses pour un chat, c'est pas celles qui sont à un niveau très élevé, mais c'est souvent celles qui sont le plus bas.
Parce qu'il n'y a pas le temps de survivre.
Il n'y a pas le temps de se retourner de bord. Et,
ben oui.
Donc, il essaye de grimper, par exemple, sur un conteneur ou un truc du genre, puis clac, il va tomber à renverse parce qu'il n'y aura pas eu le temps de... Et il y a même des études, parce que quand je préparais le quiz, je regardais un petit peu, il y a des études qui ont étudié la chute des chats et ils disent que, dans certains cas, il y a un chat, par exemple, qu'ils ont étudié, qui est tombé d'un 32e étage et il s'est moins blessé qu'un chat qui est tombé d'à peine quelques étages, deux, trois étages de hauteur, parce que tout le temps qu'il y a eu pour se retourner de bord et se préparer.
Et se placer comme il faut.
Il y a eu, à toute fin utile, simplement un poumon perforé, une dent fracturée, c'est à peu près tout, en comparaison avec des chats qui étaient tombés, par exemple, d'un troisième ou d'un quatrième étage, qui s'étaient brisés beaucoup d'eau, justement parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de bien se préparer.
Wow!
Et je conclue avec une dernière question. L'humain et le chimpanzé ont à peu près 98 % de leur ADN en commun.
98 %
À peu près.
Je connais certaines personnes, c'est proche. En général, je dirais, je voudrais penser que c'est moins.
C'est vrai.
Ah, c'est vrai?
C'est vrai, tout à fait vrai. Même plus de 98 % de toute l'information génétique qui est contenue dans les chromosomes de l'humain et de ce grand singe, qu'on appelle le chimpanzé, sont similaires. De tous les grands singes, le chimpanzé est génétiquement, c'est-à-dire le plus proche de nous. On dit que son génome, le génome du chimpanzé, diffère du nôtre d'à peine 1,2% environ.
OK.
Dire comme il n'y a pas grande différence entre les deux, là. Il y en a même qui trouvent le tour, tu sais, de faire des niaiseries avec le petit 1,2% de différence qu'on a avec le singe. C'est pour se dire. Ouais.
On est proche.
On est assez proche.
Oui, on est assez proche. On en a appris des affaires, mon cher.
Absolument.
Oui.
Ben, c'est pour ça qu'il est là, le quiz de chaque semaine.
Et je vais t'en apprendre d'autres.
Vas-y.
Des inventions canadiennes.
Ah! Oui donc.
L'insuline.
C'est canadien, ça?
C'est canadien.
Eh bien.
A été inventé en 1921. J'ai pas pris les inventions, les meilleures inventions, OK?
Ah! Oh, okay.
OK. Le rouleau de peinture. C'est assez pratique, ça.
Ben, ça, c'est pratique, par exemple.
Ça, c'est pratique. Début des années 40. La purée de pommes de terre instantanée que tu aimes bien, d'ailleurs.
Ben, j'haïs pas ça, je trouve que ça va bien. Tu sais,
mais peut-être que shérif, ça y en a fait job des fois.
Il y en a des meilleurs que d'autres. Là.
Oui. Mais ça fait job. Mais ça a été inventé en 1960 au Canada.
Au Canada, eh bien.
Le sac à poubelle.
Non, tu niaises.
C'est assez pratique, ça, en 1950.
Ah!
Oui, en 1950.
Pas pire, ça.
Et celle-là, je la comprends pas encore, mais c'est coudonc. La pizza hawaïenne a été inventée au Canada en 1962. Pourquoi? On le sait pas. Ça a été inventé.
Qui a eu dans sa tête l'idée de faire une pizza hawaïenne? Remarquez que tous les goûts sont dans la nature.
Oui.
Mais le match est bizarre un peu. D'abord, du jambon puis des ananas. C'est comme si ça avait quelque chose d'hawaïen. L'ananas, à rigueur, je peux comprendre. Le jambon, je catche pas trop l'affaire.
Mais c'est parce qu'il se faisait aussi du jambon à l'ananas.
Oui. Puis on dit, on va mettre ça sur une pâte.
On va garocher ça sur une pizza.
Quelle excellente idée.
Oui, effectivement. Non. Le beurre d'arachide tiens-toi bien, en 1884, beurre de peanut.
Oui, ça, je savais ça,
Mais je pensais pas que c'était si vieux que ça.
Mais je savais pas que c'était si vieux que ça, effectivement. Je savais que c'était canadien, mais...
Les lignes sur les routes... À nous autres, ça appartient, ça.
Ah, c'est ça. C'est, écoute...
En 1930.
Bon, il y a des inventions qui sont moins brillantes, là, j'avoue, oui. Là, ou enfin, dont on aurait très bien pu se passer.
Oui.
La pizza hawaïenne.
C'est ça. Mais celle-là, les lignes sur la route, c'était pas une mauvaise idée, par exemple. Mais que tu aimes beaucoup, en tout cas, que tu aimais beaucoup, plus jeune, le pablum, en 1930.
J'aime ça moins aujourd'hui, ouais.
Ah, OK. Ben, puis tu sais, tu manges du pablum, c'est un peu rough à manger. Ça irait bien avec un ginger ale.
C'est canadien, ça aussi?
Ça aussi, en 1904.
Eh ben.
Hein, t'es encore pas pire, hein? On n'est pas pire, nous autres. Le poêle électrique, ça a été inventé au Canada en 1882. La fermeture éclair.
Le fameux zipper.
Le zipper que, en tout cas, certains oublient de remonter, en 1913.
Ça, c'était une autre affaire, hein, le zipper.
Oui.
Ça m'est rarement arrivé dans ma vie. Ça m'est arrivé à quelques occasions.
D'oublier. Oui.
Mais c'est assez rare. C'est rarissime. Parce que c'est une autre affaire. Tu sais, je parlais dans une autre émission de cette espèce de manie que j'ai des portes barrées, oui. Là, que je pourrais potentiellement oublier.
Le zipper en est un.
Mais oui. Zipper, avant de sortir de la maison, c'est pas mal une des affaires que je vérifie. En général. Ça m'arrive.
Tu sors de la maison, oui.
Ouais.
Le Easy Off.
Pour le four?
Oui.
C'est canadien, ça aussi.
Oui, pour nettoyer le four, en 1932. Ça, c'est une des plus belles inventions canadiennes. La coquille protectrice, en 1927.
Ah, oui, pour les sportifs.
Oui. C'était la pièce d'équipement que je voulais te lancer avec une de nos émissions qu'on a parlé de hockey. Le hockey sur table.
Ben,
y a-tu de quoi de plus fun que ça, une bonne game de hockey sur table, dans les années 1930?
Ben, on a inventé le hockey, ou en fait, le sport, notre sport national étant le hockey, je suis quand même pas étonné qu'il y ait une espèce de cause à effet, là.
Et je termine avec la plus belle invention canadienne, celle-là, j'en suis tellement fier. Le BlackBerry.
Ah, ben oui.
En 1999.
François, qui a été à une certaine époque porte-parole de BlackBerry.
J'aurais pu facilement être actionnaire de BlackBerry.
T'aurais très certainement pu partir un musée, des appareils BlackBerry.
Je les ai tous, je pense. J'aimais assez mon BlackBerry. Là.
Eh ben.
J'en ai encore. D'ailleurs.
Une autre émission bien garnie, bien remplie. N'oubliez pas que la semaine prochaine, nous en serons à la
50e, mon cher.
Absolument. Et on vous consacre cette émission-là et la suivante, la 50 et la 151e.
Édition spéciale.
Sélection des meilleures entrevues. C'est pas dire qu'il y en a des meilleures que d'autres, parce qu'on en a fait beaucoup qui étaient très bonnes, mais on en a sélectionné quelques-unes et on va se rappeler
bonnes entrevues. Ça va être agréable.
Merci, passez une bonne semaine.
Oui, bonne semaine.
Pour la 50e la semaine prochaine. Bye-bye.